Previously on Desperate Housewives.
Previously on Buffy the Vampire Slayer.
Previously on Daniel.
Previously on Law.
Previously on Fringe.
Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce nouvelle édition de Précédemment. Nous recevons aujourd'hui deux universitaires, Éric Fournier et Arnaud-Dominique Hout. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Éric.
Bonjour.
Et bonjour Arnaud.
Bonjour.
Vous permettez que je vous appelle Arnaud,
Arnaud-Dominique? Oui, aucun problème.
On va pas discuter de votre livre que vous avez édité aux éditions de la Sorbonne. Ça s'appelle « À bas l'armée, l'antimilitarisme en France du 19e siècle à nos jours ». Alors moi, je m'intéresse beaucoup à la chose militaire depuis peu. On a déjà plusieurs émissions sur le sujet que vous pouvez écouter sur podcasts, etc., etc. J'ai déjà dit plusieurs fois dans les émissions que je venais plutôt du gauchisme primaire. Donc pour moi, les militaires, c'est dissolution immédiate. Mais depuis quelques temps, j'apprends à mettre de l'eau dans mon vin. Et votre livre c'est une somme, quoi, et sur la culture générale, et sur l'histoire militaire, mais aussi sur l'histoire de la France. Alors, on va essayer de voir tout ça. Je voudrais juste commencer un petit peu par parler cuisine. Je voudrais savoir, d'abord, je vais vous présenter quand même, excusez-moi. Arnaud-Dominique, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, membre du Centre d'histoire du 19e siècle. C'est quoi ça, s'il vous plaît? Je ne connaissais pas du tout.
Alors, c'est un laboratoire qui est en fait un des plus anciens laboratoires, d'ailleurs, de la Sorbonne, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de l'histoire du 19e siècle, mais en fait élargie, hein, parce qu'on a une conception, vous l'avez vu dans le livre, très élargie du 19e. C'est un laboratoire qui a une particularité, c'est qu'il continue à regrouper des historiens de deux universités différentes, Paris-Panthéon-Sorbonne et Sorbonne-Université, qui sont voisines, mais qui sont en fait des universités différentes, et c'est très bien comme ça, on partage le même laboratoire de recherche spécialisé sur ces questions.
D'accord, je vais rebondir sur le laboratoire de recherche. Juste avant, je fais le lien. Éric Fournier, vous êtes aussi donc au centre d'histoire du 19e, hein, c'est bien ça?
Ouais, exactement, mais l'autre université, du coup, Paris 1, Panthéon, Sorbonne.
D'accord, l'université voisine.
Ah oui, mais imbriquée, c'est-à-dire les locaux se croisent, se chevauchent, mais nous sommes différents. Voilà.
Alors, ça veut dire quoi, laboratoire de recherche? Ça veut dire que, c'est une question très bête, hein, mais c'est pas grave. Laboratoire de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cherchez de nouvelles sources historiques, vous cherchez ce qu'on ne sait pas encore. C'est quoi, laboratoire de recherche?
Du coup, alors,
Éric.
Les nouvelles sources historiques, nous, comme on travaille sur l'histoire contemporaine, c'est malheureusement assez rare. Nos collègues qui travaillent sur l'histoire antique ou médiévale peuvent avoir la chance de trouver des nouvelles sources par des fouilles. Nous, les nouvelles sources, ça arrive. Ça peut être des correspondances privées, par exemple. Nos collègues qui travaillent sur le XXe siècle plus récent peuvent avoir la joie d'ouverture d'archives auparavant fermées. Bon, nous, les nouvelles sources, c'est un rêve, un fantasme, je ne sais pas, mais on en a quand même assez peu. Et en revanche, effectivement, soit on reprend des questions qui avaient été traitées il y a très longtemps, et comme l'histoire répond aux questions de son temps et du présent, bah, il faut bien qu'on s'y remette. Soit effectivement, comme c'est le cas là pour l'antimilitarisme, on se rend compte au cours de discussions entre collègues, de travaux en commun, que par exemple, il n'y avait aucune synthèse universitaire sur l'antimilitarisme. Donc là, c'était du neuf. Et on a mobilisé les ressources du laboratoire. Alors, des ressources financières limitées, on va le dire tout de suite, mais en revanche, on a pu s'appuyer sur des collègues, des étudiants, des doctorants pour nous aider dans ce travail.
D'accord.
Oui, c'est ça. En fait, le laboratoire en histoire, c'est une manière de conserver quelque chose de collectif. Parce que c'est vrai qu'en général, le travail de l'historien est quand même plutôt un travail individuel. L'essentiel de nos publications sont individuelles. En général, on signe tout seul les livres et les articles. Mais dans le cadre justement du laboratoire, c'est un espace un peu idéal pour avoir un lieu de discussion, de convergence. Et donc là, très concrètement, ça permet de monter un travail collectif qui se décline d'ailleurs souvent sous la forme, dans ce cas-là, de journées d'études avant de devenir véritablement un livre.
D'accord. En gros, c'est plusieurs cerveaux au service d'un seul thème. C'est bien ça?
Et plusieurs regards. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est qu'on ne venait pas forcément des mêmes spécialités. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que Eric est spécialisé dans l'histoire des révolutionnaires plutôt, et moi plutôt dans l'histoire de ceux qui sont de l'autre côté de la barricade, des gendarmes et des forces militaires. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir qu'on a des objets voisins, mais qu'on regarde dans deux sens différents, et donc d'essayer de confronter et donc de faire avancer la réflexion collective.
Alors ça, je l'avais compris rien qu'à la lecture de votre bibliographie. Par exemple, vous avez écrit Arnaud Dominique Hout, Les peurs de la belle époque, Clib, attentat, catastrophe et autres périls, aux éditions Taillandet. Je vous annonce que je l'ai acheté, que je n'ai pas encore ouvert, mais que je vais le lire. Attendez-vous à un autre mail de ma part
C'est très bien.
pour en discuter, parce que le thème m'intéresse vraiment. Et pareil, pour vous, Éric Fournier, La critique des armes, une histoire d'objets révolutionnaires sous la Troisième République. Alors lui, il est dans ma liste, hein, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça va bientôt, ça va être le mois prochain, je pense. Et aussi sur les mouvements révolutionnaires, vous avez écrit La Cité du Sang, Boucher de la Villette contre Dreyfus. Celui-là, je ne l'ai pas précommandé, on va dire. Mais j'avais bien vu la différence enfin, entre les deux avec votre bibliographie. Avant de passer à votre livre, je voudrais savoir comment il a été écrit. Alors c'est sous la direction 2. Donc de vous deux, est-ce que ça veut dire que vous avez élaboré le plan, savoir de ce qu'on allait mettre, de ce que vous alliez mettre dedans, puis faire, je sais pas moi, un appel d'offres pour les auteurs qui sont dans le livre? Comment ça se goupille tout ça? Qui veut prendre la parole?
Je veux bien commencer et Eric
Avant.
continuera. On travaille un peu toujours comme ça, finalement, en embrayant l'un et l'autre. En fait, le point de départ, c'est qu'on avait voulu monter un colloque. Et donc, on a cherché des gens qui pouvaient justement intervenir sur ces questions. On a même fait un appel à communication. Donc, on a fait circuler dans toute la communauté historienne, puisqu'on a des listes de diffusion, voilà, un appel justement à proposition. Ce qui nous a permis déjà d'avoir une première liste de gens qui soit travaillaient vraiment sur ce sujet-là, soit sans être spécialistes de ce sujet, s'y intéressaient. Et ensuite, quand on est arrivé au projet de faire un livre, on a constitué une sorte de table des matières un peu idéale. Et puis après, on a essayé de voir si, pour tous les thèmes qu'on envisageait, on pouvait trouver des spécialistes. Alors, il y avait déjà, grâce à cette journée d'études, un nombre significatif de cases qui étaient cochées. On savait que là, on avait des gens qui avaient déjà travaillé sur des questions et qui pouvaient donc proposer un article. Et puis, il y a eu pas mal de thèmes pour lesquels on n'avait personne. On a continué à prospecter. On n'a pas toujours trouvé, d'ailleurs. Il y a des zones d'ombre, hein, parce que, notamment sur les comparaisons avec les pays étrangers, ce n'est pas toujours facile de trouver. Et il y a des pays pour lesquels il a été très difficile parfois de trouver. Mais donc voilà, c'est un peu un travail brainstorming, on va dire, pour constituer le plan qui a toujours évolué ensuite. Et c'est un travail de longue haleine, hein. On a fait ça sur 3 ans, 4 ans presque, hein. 4 ans, ouais.
Oui, ça, 4 ans. Alors, oui, c'est. En fait, là, le colloque nous a montré qu'il y avait un sujet intéressant, qu'il y avait matière à poursuivre le travail. Et effectivement, au lieu de demander aux collègues de rédiger ce qu'on appelle des actes de colloque, c'est-à-dire une publication confidentielle, très technique, que presque personne ne va lire, on leur a dit, bon, patientez, on va faire un livre collectif. On va faire venir, comme l'a dit Arnaud, d'autres personnes. Et là, effectivement, c'était dans une certaine mesure une forme de bricolage, parce qu'on se demandait, mais à qui on va demander? Contrairement à ce qu'on peut lire parfois, les chercheurs en activité sont souvent surchargés de travail, et plusieurs nous ont dit, non, mais là, je ne peux pas, je suis sur plusieurs livres en même temps, je suis au bout. Donc, il a fallu qu'on bricole, qu'on prospecte, faire des choix. Par exemple, on avait fait le choix de faire monter les jeunes, c'est-à-dire dès qu'il fallait choisir pour une notice un peu importante, un peu centrale, l'un des critères était de promouvoir les jeunes pour les aider dans la suite du métier, par exemple. Donc ça, c'est une coordination qui comporte un réel facteur humain, c'est-à-dire qu'il fallait trouver, parfois convaincre hein, des collègues de se rajouter un surcroît de travail, même si globalement ça a été plutôt bien accepté, parce qu'aussi on leur proposait un format peut-être un peu plus court que les contributions habituelles, parce qu'on voulait aussi faire un livre lisible et accessible. Et on s'était dit, si on demande les chapitres selon un format universitaire habituel, on risque de perdre un peu en énergie en lecteur. Et donc ça a donné, je crois, peut-être plus de dynamisme au projet aussi.
Et dynamisme qui se ressent dans la lecture aussi. Hein. On a interviewé il y a peu Adrien Denouette, qui a écrit sur l'humour et sur le cinéma, donc vraiment à l'opposé de ce que vous avez fait. Mais sa démarche, je pense, dans l'écriture, ressemble un petit peu à la vôtre. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu, je m'attendais à un livre d'universitaire, ne le prenez pas mal, mais OK, on va tourner les pages, ça va être lourd. Et en fait, on tourne les pages, mais c'est passionnant, c'est bien écrit, il y a des petits chapitres, etc. Et en plus, on apprend à chaque fois un truc. Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez cherché des sources qui n'avaient jamais été dites. Et on va en parler tout à l'heure, hein, mais le soldat Garou, par exemple, moi, je ne savais pas du tout, et pourtant, j'ai baigné dans un milieu antimilitariste. C'est la première fois que j'en ai entendu parler, et c'est dans votre livre. Il y a aussi la naissance du mythe de la virilité. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Je fais plein de petits teasings pour ceux qui nous écoutent. Mais ouais, on ressent bien ce dynamisme à la lecture du livre. Et ça, je pense qu'il faut aussi le dire. C'est important de dire que c'est un livre qui se lit comme un roman, quoi. Et on apprend en plus des trucs, vrai. Donc c'est bien. Avant de poursuivre sur le livre, j'aimerais poser une question personnelle. Alors vous y répondez si vous le voulez ou pas, c'est pas obligé. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit ben, je vais devenir historien? C'est à l'adolescence, c'est au niveau des études, c'est un goût pour. Comment on se dit que c'est ben, tiens, je vais devenir historien? Est-ce que vous avez vous un déclic ou est-ce que ça a été un long fleuve tranquille?
En ce qui me concerne, c'est très simple et assez rare. Mon père était prof d'histoire dans le secondaire et vers l'âge de 3 ans et demi, j'ai voulu faire comme papa. Et ça m'a jamais abandonné du coup. Et moi, mon objectif, c'était d'être prof dans le secondaire, ce que j'ai fait pendant 16 ans tout en continuant à écrire. Moi, je me suis dit, mais bon, finalement, si je pouvais être à l'université, ça serait bien aussi. Donc, c'était un long, oui, un long fleuve. Relativement tranquille, mais oui, un très long fleuve pour moi.
Merci.
Oui, et moi, de la même manière, je ne peux pas dire qu'il y ait eu un déclic, parce que j'ai vraiment le sentiment que j'ai toujours voulu, en fait, être prof d'histoire. Au fond, oui, enfin, voilà, c'est un peu le long fleuve tranquille, c'est vrai. Il n'y a pas eu de moment déclic, il n'y a pas eu de révélateur. Il y a en fait le constat, voilà, quand on est enfant et adolescent, que bah, les histoires les plus amusantes sont les histoires justement qu'on trouve dans les livres d'histoire. Et on se dit que bah, on a envie de les raconter aux autres et puis de les écrire à son tour. Et voilà.
Ok, donc ça veut dire, là j'écoute ce que vous me dites et je pense que ça veut dire que historien en gros c'est quelqu'un qui aime enseigner et partager quoi. Vous êtes
Oui.
d'accord?
Oui, je pense que enfin, c'est vraiment une des clés. Alors, tout le monde ne le dira pas forcément de la même manière, parce qu'il y a différentes conceptions aussi. Il y a des conceptions plus scientifiques, on va dire, de l'histoire, parce que parfois, il y a d'autres visions du métier. Mais je pense que Éric Fournier et moi partageons la même conception qui met l'enseignement au centre, en fait, du système. C'est-à-dire que on n'écrit pas des livres pour nous-mêmes. Mais on les écrit en ayant en tête justement nos étudiants, un public qui peut dépasser, on l'espère, le champ des étudiants. Mais l'idée, voilà, c'est qu'il y a cette question de la transmission. Et je pense que c'est très important aussi dans la manière de penser les objets, parce que vous le disiez tout à l'heure, on a fait des chapitres assez courts, mais c'est aussi parce qu'on est lucide sur les modes de lecture contemporains. Aujourd'hui, un livre, il est plus rare qu'on le lise en continu. Et si on fait un bouquin de 600 ou 700 pages, seuls quelques spécialistes, quelques passionnés vont le lire. Et là, l'intérêt, c'est que ce livre, il peut être feuilleté. Et je pense que c'est un mode de consommation qui est très fréquent en bibliothèque universitaire. Nos étudiants ne lisent pas le livre de l'intro à la conclusion, mais ils vont feuilleter et je pense qu'ils trouveront des choses. Ça piquera leur curiosité.
Oui,
Je
tout à
suis
fait.
entièrement d'accord avec Arnaud sur ces questions.
En tant que lecteur, je vous dis oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, oui. on passe du coup à votre livre. Enfin, après cette longue introduction. Alors moi, à la lecture, mais vraiment des premières pages, des deux premiers chapitres, il y a deux questions qui me sont qui m'ont popé dans la tête, si j'ose dire, et que je vais vous retourner maintenant. La première question, c'est enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une impression. J'ai eu l'impression qu'il y avait une distinction qui était faite dans l'antimilitarisme. C'est-à-dire qu'on distinguait l'officier, c'est-à-dire le gradé, du soldat de base. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai compris? Est-ce que vous pouvez expliciter?
Oui,
Éric, peut-être?
c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur toute la période, c'est-à-dire du milieu du 19e siècle jusqu'à nos jours à peu près, le soldat, qu'il soit un conscrit ou un soldat de métier, d'ailleurs, du reste, est généralement épargné par le discours antimilitariste. En revanche, le moindre officier, en gros, passer le grade de caporal, le moindre officier ou sous-officier, lui, va être considéré comme un des instruments principaux de l'oppression antimilitariste. Et ça, c'est vrai que c'est particulièrement flagrant. C'est-à-dire que ça n'épargne ni les officiers ni les sous-officiers.
Il y a cette idée, effectivement, l'officier, c'est souvent le bourgeois, il y a une dimension de lutte des classes, et le sous-officier, c'est celui qui est complice finalement du système et qui détient une part de pouvoir. Et donc la critique, elle existe. Et effectivement, elle est très corrélée au fait d'exercer une part d'autorité.
Et pendant le service militaire, c'est-à-dire qui commence à devenir une réalité effective au début du XXe siècle, ce sont effectivement les sous-officiers qui incarnent et pratiquent l'autorité arbitraire ou brutale dénoncée par les antimilitaristes. C'est pas le colonel qui va le faire. Donc les sous-officiers dans ce dispositif ont des motifs pour se faire détester assez importants.
D'accord. Donc ouais, il y a une distinction entre les deux. Est-ce que c'est dû aussi au fait que l'armée ouvrait ses casernes aux gens qui étaient dans le besoin, qui avaient faim, etc. Est-ce que c'est dans l'imagerie, ça a joué aussi dans le fait de ne pas voir les soldats comme objet de l'antimilitarisme, ou pas du tout?
Pas particulièrement, parce qu'en fait, ce qui est déterminant, c'est vraiment la question de à quel moment le service devient-il universel? En fait, c'est vraiment ça la question clé. Au 19e siècle, il peut y avoir des engagements militaires qui sont liés à la pauvreté, ça c'est vrai, mais j'ai envie de dire que la plupart des gens qui sont trop pauvres pour trouver justement une subsistance dans la vie ordinaire, vont pas être les bienvenus à la caserne. Parce qu'en fait, l'armée cherche quand même souvent certaines garanties, certains niveaux de recrutement. Donc, l'armée, elle est rarement peuplée de misérables. En revanche, comme le disait Eric, à partir de la fin 19e, début 20e, les nouvelles lois militaires font que tout le monde a vocation à exercer le service. Et là, effectivement, ça va donner le sentiment que le simple soldat, c'est plus un militaire comme les autres. C'est clairement pas un professionnel. Il n'a pas vocation à rester militaire. Et donc, on ne le traite pas de la même manière que celui qui, parce qu'il a accepté de prendre des grades, lui, a fait des choix. Donc, je pense que c'est ça qui est déterminant. Le simple soldat, c'est celui dont on peut toujours dire qu'il est là parce qu'il n'a pas le choix. À l'inverse, celui qui exerce une part d'autorité, ben, on peut lui reprocher d'être acteur véritablement du système militaire.
D'accord. Donc du coup, quand vous avez des soldats qui refusent de tirer, qui refusent des ordres, je pense de mémoire le mouvement de la crosse des crosses en l'air, ça fait partie aussi de ce que vous êtes en train de me dire. Ça fait partie aussi du refus d'antilitarisme basique, entre guillemets. C'est bien ça?
Alors, la crosse en l'air, c'est en fait l'une des manifestations les plus intenses de l'antimilitarisme. Alors, vous avez évoqué le fait de ne pas tirer ou tirer en l'air, par exemple. C'est le seul geste indécelable par les autorités. Aucun officier ne peut voir qu'un soldat a délibérément tiré trop haut pour ne blesser personne, par exemple, lorsqu'il s'agit de réprimer une grève, car en ce temps-là, en tout cas au moins jusqu'en 1914, c'est l'armée qui est envoyée pour réprimer les mouvements sociaux violents ou pouvant l'être. Et la crosse en l'air, C'est derrière l'apparente bonhomie du geste, refuser de tirer sur ses frères, ses sœurs, etc. En fait, ça renvoie au début de la Commune de Paris. C'est-à-dire qu'au moment de la Commune de Paris, le 18 mars à l'aube, des soldats obéissant aux exhortations de la foule, dont des femmes, dont des Parisiennes, ont commencé par mettre crosse en l'air, signifiant qu'ils cessaient d'obéir à leurs officiers. Puis, quelques heures plus tard, ont retourné leurs armes et les ont fusillés. C'est ce qui est chanté dans l'International. Crosse en l'air et rompons les rangs, nos balles sont pour nos généraux. Donc, en fait, ce geste, il est porteur de la violence ultime de l'antimilitarisme, hein, qui est d'abattre ses officiers. Et là, on est vraiment au cœur de l'antimilitarisme comme avant-garde révolutionnaire, plus que
D'accord.
comme geste d'insoumission ou. Là, il faut faire des gestes plus furtifs, moins signifiants aussi, symboliquement.
Donc, en gros, c'est de la lutte, quoi. C'est-à-dire, ça dit que c'est de l'antimilitarisme, pardon, vu comme une lutte. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut, faut rentrer dans, faut tirer dessus, quoi. Faut abattre vraiment.
Ah, ça, c'est ce que disent les révolutionnaires les plus subversifs sur une période qui va à peu près de la fin de la Commune jusqu'aux années 20 avec le PCF qui après se calme un peu. Mais ça, c'est un horizon d'attente révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est ce qu'espèrent les révolutionnaires les plus violents et les plus déterminés. Mais sinon, le simple fait, par exemple, de déserter ou de refuser d'obéir aux ordres peut suffire. En revanche, sur cette période-là, qui est celle de l'antimilitarisme plus révolutionnaire, aucun antimilitariste n'appelle les recrues à jeter leurs armes. Il faut surtout les garder avec soi, au cas où.
Mais ça, c'est une idée qui perdure encore aujourd'hui, hein. On a vu, rien qu'avec la crise des Gilets jaunes ou plus récemment les retraites, l'idée que d'avoir l'armée et la police avec soi, ça pouvait faire plier le gouvernement. Ça pouvait, le pouvoir pouvait changer de camp, quoi. Ça vient donc de là.
Oui, effectivement, et ça, c'est une constante des révolutions du 19e siècle. Hein. Depuis la Révolution française, il y a l'idée que si une révolution veut gagner, si la rue veut gagner, elle a besoin de retourner une partie de l'armée. Parce que la rue toute seule contre l'armée perd à chaque fois. Mais si la rue parvient à faire douter les soldats, et mieux encore à les retourner, bah là, dans ce cas-là, le jeu est ouvert et on a bah, la Révolution française, les révolutions de 1830, 48. La commune, qui sont en partie justement dans ce processus.
Du coup, à quel moment vous datez le début de l'antimilitarisme? Moi, dans votre livre, j'ai eu un doute, du coup, ça fait deux fois que je dis du coup, pardon. Alors d'abord, j'ai eu l'impression que le militaire, au départ, faisait un peu le travail de la police. Alors ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de police à l'époque ou pas de police telle qu'on la connaît aujourd'hui, où j'étais dans l'attribution du soldat et de l'armée.
Alors là, je vais commencer par répondre sur les polices et je laisserai
Ça
ensuite
marche.
Éric dater l'antimilitarisme. Comme ça, on va se partager nos
Voilà.
responsabilités. En fait, police et gendarmerie existent, mais en petit nombre. La préfecture de police de Paris, elle existe depuis 1800. La gendarmerie, elle existe depuis 1791. Et à chaque fois, d'ailleurs, il y a des antécédents. Donc, il y a des forces de police, mais sauf qu'elles ne sont pas du tout au niveau actuel en termes d'effectifs et de disponibilité. Donc, pour maintenir l'ordre, et souvent dans des contextes justement tendus, des contextes révolutionnaires et potentiellement violents, les autorités, les gouvernements successifs utilisent très souvent l'armée. Ce n'est pas sa mission première, mais disons que tout au long du 19e siècle, par exemple dans les grandes grèves, il est fréquent, très fréquent, que l'armée soit utilisée. Il y a des gendarmes, il y a des policiers, mais il y a aussi des militaires. C'est eux qui font le nombre. Et en fait, à partir de la fin du 19e, justement, il y a cette idée que ce n'est pas un bon système, que c'est satisfaisant pour personne, parce que ce n'est pas forcément très efficace, parce que ça suscite davantage de violence et de révolte. Et donc, à partir de la fin du 19e, de la Troisième République, Le discours qui s'impose, c'est qu'il vaudrait mieux que les militaires ne soient pas utilisés. Alors il faudra encore, ça c'est le discours, et pour qu'ils soient vraiment presque plus utilisés, il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle, hein. Donc pendant toute la première moitié du XXe siècle, les militaires sont encore utilisés, mais à chaque fois, on dit c'est dommage, et on préférerait ne pas. Mais le principe de réalité fait que il y a des soldats impliqués jusqu'à au moins 1947-48 dans la répression des grèves. Après, en revanche, ça devient extrêmement rare.
Merci.
Et alors, pour faire la transition avec ce que vient de rappeler Arnaud, les militaires eux-mêmes rechignent à aller au champ de grève, selon la belle expression du mouvement social, non pas le champ de bataille, mais le champ de grève, parce que pour eux, ça ne va pas favoriser leur carrière. Ce sont des combats sans grandeur, ils n'aiment pas. Enfin, il y a même les officiers les plus réactionnaires et soucieux de conserver l'ordre social jugent presque déshonorant d'être envoyés aux grèves. Donc il y a aussi un malaise, hein, de ce point de vue-là. Le malaise aurait été encore plus fort sans doute au tout début du 19e siècle, où il ne peut pas y avoir vraiment d'antimilitarisme parce que des soldats sont, en tant que fidèles héritiers des volontaires de 1792, des vainqueurs de Valmy, bref, des armées révolutionnaires, on trouve chez les soldats, y compris chez des officiers, parmi les plus fervents opposants aux monarchies du premier 19e siècle. Un exemple célèbre, enfin quoique un peu daté pour les jeunes générations, les quatre sergents de La Rochelle, qui, comme leur nom l'indique, sont quatre sergents de l'armée française en 1800. 27, si ma mémoire est bonne, qui font partie d'une conspiration pour renverser le régime, dans laquelle baignaient nombre de militaires et qui sont exécutés pour cela. Donc jusqu'en 1848, l'armée est mal vue par les forces conservatrices comme étant un repère de libéraux, c'est-à-dire à l'époque presque l'extrême gauche, voire de bonapartistes, en tout cas pas fidèles au régime. Et turbulent. Le grand changement, c'est la répression de la Révolution parisienne de juin 1848, où l'armée, en 3 jours, submerge les barricades de l'Est parisien et massacre à peu près 4 000 insurgés. L'armée, à ce moment-là, vient de montrer qu'elle pouvait être le dernier et plus efficace rempart de l'ordre. Et c'est à ce moment-là que l'on voit apparaître, ce qu'indique Vincent Robert dans sa notice au début du livre, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître finalement le premier discours antimilitariste, même si le mot n'est pas encore forgé, avec notamment ce conte du soldat loup-garou, ou alors je peux en parler maintenant, peut-être rapidement.
Allez-y, allez-y,
Oui.
je reviendrai
Le
dessus,
soldat
voilà.
loup-garou, c'est une brochure tirée à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires après la répression des journées de juin en 1848, édité par un républicain social, donc l'extrême gauche révolutionnaire du moment, et qui raconte sous la forme d'une veillée paysanne comment un homme dit avoir été victime de la malédiction du loup-garou, et l'on comprend très vite que la durée de la malédiction, 7 ans, correspond à la durée d'engagement dans l'armée. Que la peau du loup-garou était en fait son uniforme de soldat, que la voix qui l'obligeait à tourmenter ses proches était en fait les ordres de l'officier. Mais comme c'est une brochure antimilitariste, voulant en fait faire comprendre une modernité, c'est-à-dire la nécessité de l'antimilitarisme à un public paysan, il utilise donc les contes et légendes des campagnes pour rendre cette modernité accessible à un large public. Et à la fin du conte, le soldat loup-garou dit qu'il a réussi à se libérer de l'emprise qui l'obligeait à se transformer en loup-garou. Et on comprend qu'en fait, il a désobéi aux ordres de son officier au moment où il aurait dû massacrer des Parisiens. Et après, le mot apparaît sous la Troisième République. En revanche, ce qui est énoncé explicitement lors de la Commune de Paris, ce n'est pas l'antimilitarisme en tant que tel, mais c'est la haine du militarisme. La colonne Vendôme, par exemple, est démolie parce qu'elle incarne, dit la Commune, le militarisme. Et à partir de là, en fait, l'idéologie et le mouvement antimilitariste ne s'arrêtent plus. Et le mot, je crois, de mémoire, est forgé vers 1890, pas avant.
Oui, c'est
Mais la
ça.
réalité existe.
Dans les dictionnaires, il apparaît effectivement dans les années 1890, d'ailleurs dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Et le mot se popularise à ce moment-là, mais effectivement, la réalité est antérieure.
Mais alors, c'est quoi l'antimilitarisme? C'est le refus total de la chose militaire, l'uniforme, les ordres, marcher au pas, etc., etc., le global, ou c'est le refus d'un ordre semi-étatique pour contrôler la situation, le peuple. C'est quoi l'antimilitarisme? C'est l'un, c'est l'autre ou c'est les deux?
C'est l'ensemble, parce qu'en fait, je pense qu'un des grands partis pris du livre, c'est justement de ne pas chercher à avoir une définition fermée. On est parti du principe que, on travaillait sur 2 siècles et donc sur des sensibilités qui avaient évolué. Et donc, il fallait, essayer de voir comment les gens, à une époque donnée, parlaient de l'antimilitarisme et on se rend compte que, l'antimilitarisme de 1900 n'est pas du tout celui de 1950 parce qu'il y a d'autres enjeux. Alors, en fait, dans cet antimilitarisme, il y a une dimension qui a longtemps été la plus connue et qui était la plus présente dans les anciens livres sur cette question, c'est la dimension vraiment politique, révolutionnaire, qui est une dimension très liée justement à l'histoire des mouvements révolutionnaires, du Parti communiste, pas seulement d'ailleurs, mais cette dimension-là, elle considère justement que l'antimilitarisme, c'est un levier de la révolution. Alors cet antimilitarisme-là est hostile à l'armée bourgeoise, mais n'est pas du tout hostile en revanche aux faits militaires. Et ils n'ont pas de problème dans l'idée qu'il faut une armée. Ce qu'ils veulent, c'est une autre armée, une armée d'une autre nature, qui soit plutôt sur le modèle de l'armée rouge, par exemple, ou d'armée anarchiste, mais qui soit pas, en tout cas, l'armée bourgeoise que l'on connaît en France. Donc il y a cette histoire-là qui existe, mais ça se décline de manière très, très différente. Quand on va voir, par exemple, des sensibilités antimilitaristes qu'on peut retrouver dans beaucoup de milieux sociaux et dans beaucoup d'univers politiques, et là, ça va plutôt être une forme presque culturelle de dégoût. C'est la chose militaire, c'est la caserne, c'est tout ce qui accompagne la caserne. Donc, selon les époques, la vie en chambrée, mais ça peut être aussi, à la fin du XXe siècle, l'obligation de se couper les cheveux, la boule à zéro. Ça peut être tous ces éléments-là qui vont susciter une sorte de réflexe. Je pense que là, on peut parler d'un réflexe, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une pensée politique construite, ce n'est pas une idéologie, contrairement au premier cas, mais c'est un autre domaine dans lequel on va retrouver finalement une forme de critique de l'armée.
C'est amusant, vous dites que ce n'est pas une construction politique, si j'ai bien
Ce n'est pas
entendu.
que ça, ça peut être une construction politique. Mais il y a aussi des formes justement qui ne sont pas pensées, j'ai envie de dire,
D'accord.
qui relèvent justement plutôt de sensibilité et oui, je dirais de réflexe, parce que c'est ça.
D'accord. Pour moi, vous voyez, l'antimilitarisme, c'était quelque chose de gauche. C'était politique. Si tu es de gauche, bah, tu n'aimes pas l'armée, tu n'aimes pas la police, tu n'as même pas à réfléchir. Et je pensais justement que l'antimilitarisme était né avec avec le colonialisme. C'est un peu ce qui est un peu abordé dans le livre, dans les premiers chapitres de mémoire. Mais on voit aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, avec le refus du massacre des Parisiens et la Commune, etc., que c'est un peu plus tôt aussi, que ça peut être une autre origine. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé bien dans le livre, c'est qu'on apprend des trucs, quoi. Notamment sur ça. Pour vous, c'est pas de gauche, l'antimilitarisme?
Bah, en fait, si, parce que d'abord, on ne trouve pas d'antimilitarisme de droite. On peut avoir un pacifisme chrétien qui peut être porté par des chrétiens assez traditionnalistes, mais pas intégristes, hein. Moi, à ma connaissance, non. Donc, on peut avoir un pacifisme de droite qui puise aux racines chrétiennes. L'antimilitarisme de droite, ça n'existe pas. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que des individus, par leur action antimilitariste, vont finalement se diriger vers la gauche. C'est-à-dire que des individus sans expérience politique préalable forte, parce qu'ils ont un engagement antimilitariste et réprimée comme telle par l'État, parce que la répression de l'antimilitarisme peut être très forte, vont basculer et se retrouver dans le jeu politique à gauche. Un bon exemple, je crois, c'est les combats du Larzac dans les années 70. Nous avons des paysans qui n'ont pas ou très peu d'expérience politique ou d'engagement politique préalable, qui mènent au début un combat local contre l'extension du camp militaire du Larzac, qui sont rejoints ensuite par une frange, et là très ancrée à gauche, pacifiste, dans la foulée de mai 68, mais très rapidement, on voit que se développe un antimilitarisme, c'est-à-dire entendu ici comme la critique de l'armée comme institution envahissant finalement le champ social, et que ce qu'aurait pu être un conflit de bornage de propriété, finalement, le Larzac, se retrouve une des légendes, pas une, comment dire, un des mythes mobilisateurs majeurs à gauche encore aujourd'hui. Voilà, faut plutôt le dire comme ça. Alors qu'au départ, voilà, on part sur un conflit rural finalement assez connu, quoi, l'extension d'une propriété, une expropriation. Et comme l'armée est impliquée dans ce conflit, la politisation s'effectue par le biais de l'antimilitarisme, en fait. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui, c'est très clair. Et ça répond à une des questions que j'avais notées et que je pensais vous poser un peu plus loin, mais qui était, du coup, c'est quoi l'antimilitarisme de droite? C'est répondu, on peut zapper, on peut passer à autre chose.
Make it better, do it faster, makes it stronger. All that ever power.
Je rebondis sur ce que j'ai dit, ça fait 2 ou 3 fois que je le dis, mais on apprend pas mal de beaucoup de trucs dans le livre. Alors, le soldat Garou, on va y revenir, vous en avez parlé. Moi, c'est le premier truc qui m'a marqué. Hein. Mais vraiment, je ne sais pas si vous avez eu des retours, mais moi, c'est vraiment le premier truc qui m'a marqué. Je me suis dit, mais comment quelque chose qui a eu autant d'influence a pu être autant oublié? Ça m'a vraiment marqué. Et le deuxième gros point qui m'a marqué, c'est la naissance du mythe de la virilité. Pardon. C'est-à-dire que moi, à l'époque où je devais faire le adolescent, quand je devais faire le service militaire, on m'a dit, bah, c'est très bien, tu vas devenir un homme. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi, d'où venait cette idée qu'on devenait un homme que lorsqu'on faisait le service militaire. Ben, c'est enfin expliqué. Dans votre livre. Donc ça vient du conseil des révisions qui était dans les campagnes où on vérifiait si les jeunes étaient aptes à faire le service militaire. Et il y avait l'adage bon pour le service, bon pour les filles. Donc après le conseil de révision, on pouvait se beurrer la gueule et aller voir les filles. Ça y est, on était un homme. Je vais citer l'article en question qui a été écrit par Aurélien Lignereux. Lignereux, j'espère que je le prononce bien,
C'est bien ça.
conçu pour s'assurer de la résistance des conscrits aux fatigues de l'armée, le conseil de révision a été interprété par les communautés locales comme un brevet de visibilité, autorisant la première cuite et les relations sexuelles, entre parenthèses, bon pour le service, bon pour les filles. L'approche a ceci de remarquable qu'elle fait ressortir l'historicisation d'un folklore arraché au champ de la tradition et rendu à sa fonction, l'invention d'un rite de passage pour accepter la séparation entre les jeunes et leur communauté d'origine. Je trouve ça, tout est dit, quoi. En gros, grosso modo, dans ce petit passage. Donc, du coup, la question que j'avais, c'était avant ce rite de passage, on n'était pas un homme, on était moins qu'un homme. Comment on gagnait ça s'il n'y avait pas le service militaire et s'il n'y avait pas l'armée?
Ah bah, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a toujours eu différentes manières de devenir un homme. Et d'ailleurs, aujourd'hui qu'il n'y a plus l'armée, en tout cas qu'elle n'est plus obligatoire, il y a d'autres rites de passage. En fait, la virilité, c'est toujours une histoire justement de rite de passage. C'est-à-dire que, il y a eu dans toutes les sociétés un besoin de construire des étapes, des rituels. Il se trouve qu'au XIXe siècle, l'armée était quand même impopulaire. Hein. C'est-à-dire que dans la première moitié du XIXe siècle, c'est pas vraiment une fierté de partir à l'armée. C'est une contrainte, c'est un arrachement à la famille, c'est une contrainte aussi par rapport à la vie professionnelle et au destin professionnel. Et donc, il y avait cette impopularité du service militaire, mais qui était quand même obligatoire pour une partie de la société. Et donc, d'une certaine manière, ça a été une compensation d'inventer ce rituel qui, en disant, certes, tu pars à l'armée, t'es pas heureux maintenant, mais on te garantit que comme tu fais l'armée, tu vas être populaire auprès des filles, toi, tu es un vrai homme, et ceux qui partent pas, en revanche, n'auront pas le prestige des armes, de la virilité, etc. Donc c'est vraiment une sorte de compensation symbolique, et ça va s'enraciner très fortement. On le voit vraiment, hein, c'est vraiment au 19e siècle, parce qu'en fait, le rapport à l'armée a complètement changé. Au début du 19e siècle, un militaire, c'est quelqu'un qu'on peut regarder avec une certaine méfiance et en se disant, c'est quand même des gens bizarres. À la fin du 19e siècle, il y a cette idée que tous les hommes sont des militaires, tous les militaires sont des hommes, et les deux notions sont très articulées. Donc la virilité, ça a été au fond un élément de publicité pour l'armée. Et ça a posé des vrais problèmes pour le coup pour ceux qui défendaient des positions antimilitaristes. Parce qu'on les accusait justement, enfin on les soupçonnait finalement justement de ne pas se plier au rite et d'encourager la lâcheté, d'encourager finalement des pratiques qui ne soient pas justement des pratiques réellement masculines.
D'où le terme insoumis, vous
Accusation.
pensez? Pardon, je vous ai coupé, Éric
Oui,
Fournier, désolé.
mais juste accusation d'autant plus paradoxale que la violence de la répression étatique impliquait de la part des militants un courage quasiment sacrificiel, une forme de ténacité au-delà de ce qui était exigé de ceux qui faisaient leur service bonhomme à l'an. Mais effectivement, le rebelle finalement a perdu la bataille de la virilité, en tout cas dans les imaginaires collectifs. C'est-à-dire que l'homme, le vrai, c'est celui qui accepte de partir 2 à 3 ans loin de son foyer et pas celui qui va se rebeller. Et pour revenir finalement sur ce rite de passage, c'était aussi une forme d'unification visible à l'échelle européenne, par ailleurs. On trouve ça à peu près partout en Europe à ce moment-là, et qui permet aussi d'offrir aux jeunes hommes qui, de toute façon, effectivement, comme l'a dit Arnaud, doivent y aller, des rites de passage peut-être un peu plus ritualisés. Parce que l'historienne Anne Marisson a montré qu'au début du 19e siècle, pour devenir un homme, c'était d'une très grande violence. C'est-à-dire que les violences de jeunes hommes au café, enfin partout, les duels, les bagarres, des guerres villageoises, des bandes de 50 à 100 villageois qui s'affrontent parfois mortellement, ce rite de passage viril était extrêmement éprouvant finalement pour les jeunes hommes. Et le conseil de révision offre finalement un sas obligatoire et qui peut servir de substitution à ces rites, parfois, enfin locaux, parfois empreints quand même d'une grande brutalité.
Et alors vous avez dit jusqu'au très très c'était très vrai au 19e siècle, mais je trouve que ça a perduré encore aujourd'hui, hein. Enfin, moi, quand je pense virilité, je pense à un militaire, éventuellement à un pompier, mais je pense pas à un flic, par exemple. Militaire, gendarme, oui, mais pas autre chose. Donc moi, je pense que ça,
Oui.
enfin, dans ma tête, c'est vraiment quelque chose qui a perduré
Il y
au
a eu une
fil des siècles
articulation avec
fort.
l'uniforme. En fait, c'est la question de l'uniforme qui a été centrale parce qu'elle a permis justement de. Parce que l'uniforme était beaucoup plus présent dans les sociétés du 19e qu'aujourd'hui. Il y a énormément de professions à uniforme. Donc, il y a une visibilité de l'uniforme dans l'espace public qui n'est pas du tout la même. Et ça a été un des vecteurs justement de valorisation d'un certain type de figure masculine. Et ça reste, parce qu'évidemment, cet imaginaire-là, même si aujourd'hui on n'est plus dans une époque du service militaire depuis déjà plus de 25 ans, malgré tout, ça reste présent quand même structurellement, on va dire, dans les mentalités.
Donc, clairement. Et alors, la disparition du service militaire, c'est parce qu'on n'a plus besoin de compensation, vous pensez? On est devenu
Non, mais.
des aucun rapport?
Non,
Non.
en fait, non, mais. Il y avait deux motivations de la part de Jacques Chirac. Une contrainte budgétaire d'abord, d'ailleurs ça coûte cher, une armée de conscrits. Et puis, exceptionnellement, Chirac a eu une vision de la modernité, c'est-à-dire s'était rendu compte que les guerres de son temps, les engagements de l'armée française en son temps, enfin, c'était sur des théâtres extérieurs, ce qui excluait les conscrits en fait. Et qu'avec la chute de l'URSS, la perspective de défendre Paris contre une invasion de chars rouges s'éloignait aussi. Donc, en fait, l'idée, en plus à l'époque de la dissuasion nucléaire bien installée, l'idée d'une armée de conscrits défendant la nation et dont le sacrifice aurait justifié les représailles nucléaires, en fait, Chirac a compris que ce format militaire était devenu anachronique. Et par ailleurs, il y avait la question du coût. Les soldats de métier eux-mêmes, alors certains au début ont râlé, en gros, c'est qui va nettoyer nos casernes et qui va faire nos repas, parce que ça servait aussi à ça les appeler, mais en fait, ils s'y sont adaptés très vite à la professionnalisation, et à tel point qu'aujourd'hui, je pense qu'Arnaud va être d'accord, beaucoup d'officiers sont très rétifs à l'idée d'être impliqués dans la généralisation du SNU. Ils veulent pas de ce pseudo simili service militaire, enfin, qui pour beaucoup d'entre eux, je crois, n'aurait aucun sens.
Oui,
Tout à fait, qui
effectivement.
serait un poids plus qu'une ressource. Et j'ajouterais pour aller dans le sens d'Éric, il y a les deux facteurs budgétaires et stratégiques qu'il évoquait. Et puis, c'est pas une motivation pour Jacques Chirac, mais c'est quand même un constat qui était frappant dans les années 80-90. C'est la perte de sens Parce qu'en fait, ce service militaire, il était de moins en moins accepté. Et c'est là qu'on rejoint cette question de la virilité. À partir des années 80, on voit notamment de plus en plus se développer des pratiques d'exemption, de réforme. Et ça devient relativement, pas forcément facile d'ailleurs, mais en tout cas possible d'obtenir une réforme médicale. Ce qui aurait été un demi-siècle avant assez scandaleux, parce que celui qui était réformé, justement, bah, il jouait pas le jeu, ne faisait pas son service, n'était pas un vrai homme. Dans les années 80-90, c'est plus du tout un problème. Ne pas faire son service, c'est plutôt un motif de fierté, parce qu'on a su se débrouiller. Et ça montre que le contrat social, il a complètement changé. On n'est plus dans un système où l'armée est partagée, on va dire, une contrainte partagée, on est dans une contrainte qui ne pèse plus que sur finalement ceux qui n'ont pas réussi à faire autre chose. Et donc ça rend justement encore plus difficilement supportable le service militaire. Dans les années 80-90, il est très contesté aussi parce qu'il est très inégalitaire.
Parce que l'idée qu'on nous vend aujourd'hui de, à l'époque, riches et pauvres se retrouver ensemble à creuser une tranchée dans la forêt noire, ça a toujours été faux. Les catégories favorisées, d'une façon ou d'une autre, soit faisaient l'école d'officiers de réserve, soit faisaient jouer le piston, comme on l'appelait à l'époque, pour obtenir une affectation plutôt sympathique, soit du seul fait de leur diplôme. Se retrouvaient scientifiques du contingent, ce qui est quand même mieux que nettoyer des chars à Mourmelon. Enfin, et donc, l'idée, le seul brassage qu'offrait le service militaire à la fin, et qui était vrai, c'est que le pauvre des villes et le pauvre des champs se retrouvaient ensemble à creuser une tranchée dans la forêt noire. Ça, c'était un brassage réel, sans doute moins fort aujourd'hui. Mais l'idée d'un grand égalitarisme républicain où tout le monde est sac au dos dans les mêmes conditions, ça a toujours. Toujours été faux. Et ça commençait à se voir de plus en plus, comme l'a dit Arnaud, par le jeu des exemptions. En gros, si vous aviez des médecins dans votre famille, c'était quand même plus facile d'obtenir un certificat médical. Et ça commençait à se voir de plus en plus.
Ouais. Et pour revenir sur le piston, ça a toujours existé. On le voit très bien dans le livre où vous racontez que on pouvait, les familles riches pouvaient s'acheter, je mets en guillemets, à s'acheter un remplaçant pour faire le service militaire à la place de leur gosse, quoi, de leurs enfants, pardon.
Oui, avant le service militaire obligatoire.
Avant le
C'est-à-dire,
service.
oui. Mais les familles riches ou des fermiers aisés hein, pouvaient le faire aussi, mais c'est sûr que les plus pauvres en étaient exclus.
D'où l'inégalité, oui. On s'approche de la fin de l'émission. Je voulais aussi parler de l'arrivée du pacifisme, entre guillemets. Donc, on a vu tout à l'heure, alors je vais schématiser, vous allez hurler, je sens, en tant qu'historien, mais antimilitarisme, c'est la gauche, le pacifisme, c'est la droite. Je voulais mettre éventuellement les bémols. Du coup, lorsque la Première Guerre éclate, on voit qu'il y a la Première Guerre mondiale, pardon, éclate à la fin, à la fin de la Première Guerre mondiale. On voit qu'il y a j'appelle ça une prise de conscience. La durée de service militaire baisse. On a abouti là dans les années 97 à l'arrêt du service obligatoire. C'est quoi? C'est pour vous, c'est le triomphe de l'antimilitarisme, le long travail de sape? Où c'est le pacifisme et le fait que ben, on se rend compte que la guerre, c'est quelque chose de dégueulasse, où ça n'a aucune prise, c'est juste l'évolution de la société, du monde d'aujourd'hui, entre guillemets.
Moi, je serais tenté d'y voir plutôt il y a plutôt une déconnexion entre les deux. Parce qu'en fait, le pacifisme a une histoire qui est très cyclique. Il revient au lendemain des guerres parce qu'effectivement, on prend conscience du coût de la guerre, du coût humain, des deuils, etc. Mais ce pacifisme ne résiste pas tellement au retour des tensions diplomatiques, géopolitiques. Et en particulier, hein, les pacifistes, finalement, des années 1920-1930, qui d'une certaine manière sont dans le sens de l'histoire. Ils ont vu que la guerre, c'était une catastrophe épouvantable. Ben, ils sont inaudibles dans la Seconde Guerre mondiale quand on a une guerre qui va davantage pouvoir être présentée comme une guerre juste. Et donc, les pacifistes, finalement, vont avoir beaucoup de mal à se faire entendre. Et le pacifisme, de ce point de vue, c'est une histoire qui est très contextuelle. Elle dépend vraiment à chaque fois du contexte géopolitique. On le voit même si on prend une transposition aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile sans doute d'être pacifiste dans les années 2000 que dans les années 2020, où le contexte justement international a radicalement changé. Donc le pacifisme change beaucoup, là où en revanche l'antimilitarisme, alors lui-même bien sûr, il a des temps forts et des temps faibles, mais globalement, c'est un mouvement davantage un mouvement de fond. Qui, au long du XXe siècle, fait qu'on a ce qu'on pourrait appeler justement un impôt du sang, une sorte de contrainte qui est exigée de tous les jeunes hommes de faire le service militaire, qui va être de moins en moins acceptée et qui va nourrir surtout de plus en plus de critiques par rapport non seulement au fait qu'il faut défendre la nation, ça c'est globalement accepté, mais surtout à l'idée que l'armée telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est commandée, telle qu'elle est justement entraînée, ne correspond pas aux besoins et ne correspond pas à ce que veulent les gens. Donc moi je pense que pacifisme et antimilitarisme, c'est un des sujets hein, qui nous a beaucoup préoccupés dans la préparation du livre. Évidemment qu'il y a un lien, mais en réalité leurs évolutions sont assez autonomes. Et les pacifistes sont rarement en fait antimilitaristes, et les antimilitaristes ne sont pas toujours pacifistes.
Et on pourrait prendre le parcours sinueux mais révélateur de Louis Lecoing, qui, avant la Première Guerre mondiale, est un militant anarchiste dur, assez violent, c'est l'un des plus subversifs des anarchistes. Et le choc de la Première Guerre mondiale fait de lui un pacifiste intégral, sont ses propres termes, c'est-à-dire le refus de toute guerre et de toute violence. Cette position, et du coup, il abandonne l'antimilitarisme, qui à l'époque est surtout porté par les communistes et qui, eux, veulent retourner à nouveau les armes contre l'armée bourgeoise. Et Louis Lecoing, à la fin de sa vie, dans les années 60, il a vécu longtemps, aura été l'un des leaders du mouvement des objecteurs de conscience. Mais son pacifisme intégral de l'entre-deux-guerres, quand vous dites antimilitarisme à gauche, pacifisme à droite, on va nuancer un peu, mais son pacifisme intégral et non négociable de l'entre-deux-guerres fait que pendant l'occupation, Louis Lecoing s'est compromis avec le régime de Pétain. Ben, c'est Pétain qui a signé la paix avec l'Allemagne. Donc de ce point de vue-là, le pauvre Louis Lecoing, comment dire, guidé par son pacifisme intégral, s'est retrouvé empêtré finalement dans les soutiens du régime de Vichy, ce qui lui a posé plusieurs problèmes à la libération. Mais comme il y avait pire que lui en matière de collaboration, finalement il a pu revenir à ses activités militantes. Mais là où le pacifisme, comme l'a dit Arnaud, est très finalement contextuel, repart, revient, l'antimilitarisme dans sa dimension politique dessine des lignes assez fermes qui normalement évite les dérives et les errements d'un Louis Lecoing à un moment de sa vie. Dans sa dimension politique, effectivement, il trace des lignes et des frontières qui permettent peut-être plus facilement de garder le cap malgré l'évolution de certains contextes.
Ok, super, merci. Donc, Éric Fournier, Arnaud Dominique Hout, votre livre s'appelle À bas l'armée, l'antimilitarisme en France du 19e siècle à nos jours. C'est aux éditions de la Sorbonne et c'est un livre que je conseille du coup. Et je vous dis merci encore et à bientôt.
On est de sacrées meneuses d'hommes dans notre régiment de cavalerie. Les cavaleuses, on nous surnomme les dragons ou les valkyries. Car nos yeux ne sont pas dans nos poches pendant le conseil de révision. Et s'il faut s'en taper des manches, on a nos petites compensations. Ainsi, durant que la nouvelle classe se présentait à nous sans caleçon. On a toutes chaviré des chasses en voyant parader Gaston. La colonelle frôle le malaise devant son maître 93. La commandante, elle flash un max sur son 128 de thorax.
La capitaine perd la bataille, autour son 80 de taille. Et la lieutenante son self-control, en vérifiant son tour d'épaule. Que sa cuisse fit un bon 60, laisse la judante pente lente. La sergente oublie toute conduite, pour son biceps de 48. La caporale est expirante, en annonçant mollet 40. Bref, toutes les filles avaient un jeton pour l'un des appâts de Gaston. Mais moi qui ne suis que simple soldate, moi je faillis bouffer ma cravate. En yeux tant, si je puis me permettre, c'est charmant, 25 centimètres. Alors les officières bien vite se saisirent de la nouvelle recrue et l'entraînèrent chez le garde-mythe pour un habillage de leur cru. Il fallait les voir, les pougresses, frétiller autour du mannequin, choisir les brosses, choisir la graisse, pour lui faire luire les brodequins, se transformer en essayeuse derrière le comptoir du fourrier, et faire assaut de judicieuse, retouche au costume du guerrier. La caporale a une recette pour que ne plisse pas ses chaussettes. La sergente prône que son calcif doit être aussi court que ses tifs. L'adjudante, que Dieu la protège, enduit ses guêtres d'un blanc de neige. Un treillis qui dessine ses hanches exige la lieutenante qui flanche. Son ceinturon, la capitaine, lui ajuste ainsi qu'une gaine pour que la commandante voie ses fesses bien cambrées sous le battle dress. La colonelle dit quelle merveille ce petit calot sur son oreille. En somme, toutes les filles du quartier se prenaient pour Jean-Paul Gaultier. Même moi qui ne suis que simple soldate, même moi mordillant ma cravate, ce qui me plaisait, si je puis me permettre, c'était ces 28 centimètres. Mais je vous vois branler du chef en entendant avouer franchement ce qui, quoique étant assez bref, exalte ainsi mon sentiment. Et je devine alors la méprise et l'équivoque de mes propos. Il faut donc maintenant que je vous dise, pour ne point déshonorer le drapeau, que ce que je chante légère, c'est 30 centimètres, mettons. Sont ceux de la petite fourragère dansant à l'épaule de Gaston.
Previously on Desperate Housewives.
Previously on Buffy the Vampire Slayer.
Previously on Dan.
Previously on
Buffy.
Previously on Buffy.